Bonjour Franck Riester.
Bonjour Frédéric Rivière.
Vous êtes ministre de la Culture depuis maintenant 4 mois. C'est un beau ministère avec de prestigieux prédécesseurs et vous travaillez sur le sensible, sur l'intelligence. Mais malheureusement, dans votre champ de compétences, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que l'opéra, les musées, les concerts, les expositions, la littérature. Il y a aussi toute la fange qui se déverse sur les réseaux sociaux. Antisémitisme, racisme, homophobie et j'en passe. Est-ce qu'on peut espérer un jour en finir avec tout ça?
Malheureusement, la haine est une des caractéristiques de la nature humaine. C'est pas la plus belle. Donc je ne suis pas certain que ce trait de caractéristique humaine s'efface à jamais. Pour autant, on doit faire en sorte que sur les réseaux sociaux, qui est un espace public,
que les véhicules qu'ils utilisent soient
régulés, ouais. Pour ne plus laisser perdurer ce type de propos sur ces plateformes. Et donc, c'est toute la volonté du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Marlène Schiappa et Mounir Majoubi, hier, ont précisé quelle était l'ambition du gouvernement en matière de lutte contre ces propos haineux. Et ça passe clairement par deux choses. D'abord, punir ceux qui tiennent ces propos-là et trouver tous les dispositifs, parce que c'est plus compliqué évidemment sur les supports numériques que sur d'autres supports, trouver tous les moyens pour rapidement identifier celles et ceux qui tiennent ce type de propos. Ça passe par une identification de leur adresse IP notamment. Puis deuxièmement, ça passe par une responsabilisation des plateformes. On doit faire en sorte que les plateformes retirent très rapidement, presque instantanément, ces contenus haineux. Alors bien évidemment, la difficulté, c'est à partir de quand on retire les contenus, à partir de quand on estime que c'est un propos haineux. Il y a des fois c'est très clair, il y a des fois c'est plus difficile à établir. Et donc c'est tout ce travail engagé avec les plateformes. Certaines plateformes jouent bien le jeu avec nous. Je pense par exemple à Facebook. Vous savez que Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron ont eu un échange très important il y a quelques mois et il y a eu un engagement pris par Facebook de travailler avec le gouvernement français pour essayer et les équipes du gouvernement français pour essayer de travailler à cette meilleure responsabilisation des plateformes. Donc on avance, d'autres sont beaucoup plus réticentes et donc il faut le dire, il faut le dénoncer.
À propos des géants du numérique, toujours, vous avez un motif de satisfaction puisque un accord vient d'être conclu au niveau européen sur la question des droits d'auteur et dans une certaine mesure, c'est précisément une victoire contre ces géants du numérique qui ont bataillé pour qu'ils ne soient pas obtenus.
Oui, on doit avoir une juste rémunération de celles et ceux qui créent les contenus audiovisuels. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ces grands géants du net faisaient de l'argent grâce à la publicité notamment, sans rémunérer suffisamment les auteurs et les créateurs. Grâce à cette directive européenne, qui doit encore voter par le Parlement et le Conseil européen, mais ça va, j'en suis convaincu, être le cas, puisqu'il y a eu un accord dans le cadre d'un trilogue entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission, pour mettre des règles qui viseront à, en matière de presse, créer un droit voisin pour les éditeurs de presse, c'est-à-dire mieux rémunérer les articles qui sont en ligne, donc mieux rémunérer les éditeurs de presse, donc les titres de presse, les agences de presse et donc les journalistes. Deuxièmement, de mieux partager la valeur sur les plateformes de contenu, toute la valeur créée par la publicité est réfléchie uniquement ou quasiment uniquement vers les géants du numérique. Et puis troisièmement, veiller à ce qu'il y ait une rémunération juste et proportionnée des créateurs, que ce soit les auteurs ou les artistes.
Vous avez publié, Franck Riester, il y a quelques jours, une tribune dans Le Monde dans laquelle vous dites que la langue française, je vous cite, est essentielle à notre pacte républicain et à la cohésion sociale. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de dire cela? La langue française vous paraît aujourd'hui malmenée ou même menacée?
Menacée, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, oui, elle est malmenée. Elle est malmenée parce qu'on voit bien que la langue qui est utilisée partout, très souvent, c'est l'anglais. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas déterminé à promouvoir la langue française, à parler la langue française. La langue française, c'est beaucoup de choses. Ce sont notamment des valeurs qui sont véhiculées par cette langue. C'est toute une histoire, c'est toute une culture. Et donc, nous devons nous battre pour faire en sorte que cette langue française soit préservée et pas malmenée. Ça passe par le fait de la parler et de ne pas hésiter même dans d'autres pays de parler d'abord le français plutôt que systématiquement avoir recours à l'anglais. Et puis deuxièmement, c'est de faire en sorte que cette langue ne paraisse pas figée, Et donc on a créé, a été créé il y a quelques temps, une commission de l'enrichissement de la langue française. C'est-à-dire, on ne dit pas la langue française, elle est immuable, elle ne doit pas bouger, elle ne doit pas tenir compte de l'évolution de la société, de l'évolution des techniques, des technologies, des habitudes. Mais en tout cas, on doit préserver ses sa spécificité, presque sa pureté, mais on doit pouvoir l'enrichir malgré tout. Et donc cette commission d'enrichissement, par exemple, elle permet de créer des mots qui n'existaient pas, parce que la réalité n'existait pas. Les infox, la désinformation, on voit bien qu'il y a de plus en plus de désinformation.
On a beaucoup dit fake news à un moment,
donc
maintenant
on dit fake news, voilà, tout le monde disait fake news. Et ben on a trouvé un mot, cette commission a trouvé un mot qui s'appelle infox, et elle est de plus en, ce mot est de plus en plus utilisé. C'est un mot français, donc utilisons-le. Les journalistes, les hommes politiques ont une responsabilité aussi de véhiculer les mots nouveaux de la langue française, qui sont des mots qui ne sont pas des anglicismes pour autant,
justement,
mais qui sont
c'est
des
vrai qu'un
nouveaux
fox,
mots.
C'est assez malin, c'est bien trouvé. En revanche, vous parlez des anglicismes, vous n'avez pas l'impression que la langue française elle est un peu malmenée parfois par les responsables politiques, mais aussi assez largement par les journalistes. Par exemple, je prends celui-là parce qu'on l'entend beaucoup, mais impacter, ce verbe qu'on entend à longueur de journée.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu exaspérant, non ?
Oui, et vous avez raison, donc ça passe par l'éducation nationale
faire
aussi.
Passer le message.
Non, mais ça passe par l'éducation nationale aussi. On voit bien qu'il y a besoin de mieux former encore nos jeunes. C'est toute l'ambition du gouvernement en matière d'éducation, de dédoublement de classes en CP et en CE1 pour faire en sorte qu'on apprenne mieux la langue française, à l'écrire, à la lire, à la dire. C'est très important. Et ça passe aussi par une mobilisation des acteurs publics et médiatique autour de la préservation de la langue française, qui ne veut pas dire que la langue française est une langue morte. Loin s'en faut, elle est très vivante et elle sait s'adapter. C'est ce qu'on prouve avec la commission d'enrichissement de la langue française.
Alors, vous parliez de cohésion nationale dans cette tribune. La langue française en est un outil essentiel, disiez-vous. Et c'est vrai que la cohésion, en ce moment, la France en a besoin. Est-ce que la culture ne pourrait pas être un des éléments de cette cohésion nationale à l'occasion, par exemple, du grand débat ?
Bien sûr, la culture est un élément d'émancipation personnelle. Il est plus facile de vivre son métier de vivre, comme disait Cesare Pavese. Donc il y a une dimension individuelle à la culture, mais il y a une dimension aussi collective. La culture, ça rassemble, ça permet de partager des émotions ensemble. Quand vous allez voir un film dans une salle de cinéma, il y a un partage. Quand vous allez voir un concert, quand vous allez à une exposition, vous partagez la culture et vous vous rassemblez. Même si vous n'êtes pas d'accord politiquement, même si vous avez des opinions différentes, vous savez vous rassembler autour de la culture. Et donc, il est bien évidemment indiqué, si je puis dire, j'appelle toutes celles et ceux qui ont envie d'exprimer des choses sur la culture, de le faire dans le grand débat, puisque dans les quatre thèmes qui ont été retenus dans le grand débat, il est possible de parler de culture, et puis plus largement, de profiter de ce moment de prise de parole, de s'exprimer autour de la culture. Je sais qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour que on puisse parler de culture dans ce débat. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai appelé tous les lieux de culture à s'ouvrir au débat. Et en ce qui concerne l'international, bien sûr, les instituts français ont toute leur place dans le dispositif pour organiser des débats. Et évidemment, on le voit bien qu'une des sorties possibles de notre crise aujourd'hui en France, c'est la culture. Il y a beaucoup d'offres en matière culturelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est pas suffisamment su ou pas suffisamment facile d'y accéder. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a souhaité créer un Pass Culture, cette application qui recense toutes les offres culturelles et qui donne la possibilité aux jeunes de 18 ans d'avoir un budget de 500 euros pour pouvoir accéder à ces offres culturelles. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les musées numériques, par exemple, avec cette belle initiative de la Villette, avec les Microfolies qui existent en France, mais aussi hors de France.
Merci Franck Hester. Bonne journée.
Merci à vous.